ça page 5.
On aura la prière aussi pour toi.
D'accord. Si cette étude vous semble un peu floue, ce matin, c'est que ce pupitre n'est pas à la bonne distance pour le double foyer. Ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Alors, si j'ai l'air de hocher la tête un tout petit peu, c'est pour bien fixer les paroles que j'ai de vos mains, qui ne sont pas toujours dans la tête comme elles faudraient être. Bon, ça ira. On verra bien. Si à mi-chemin, ça ne va pas mieux. J'ai un peu la place du privilégié dans une telle retraite parce que je commence et j'ai bientôt fini, donc après je peux bien profiter des études des autres. Et en plus, je n'ai pas à m'inquiéter de répéter ce qui a été déjà dit, puisque je suis le premier. Mon rôle, je crois, si j'ai bien compris ce qui m'a été demandé, est de vous donner... pas tellement des enseignements, mais je vais quand même en donner quelques-uns, mais surtout des renseignements, des informations, un contexte historique, géographique, socio-culturel du premier siècle. Et en ce qui me concerne, j'ai personnellement trouvé ces choses un peu difficiles à rassembler, mais très intéressantes en tout cas, parce qu'il y avait beaucoup de sources à considérer, à consulter. Mais bien, il y a quand même des choses intéressantes à noter par rapport au sujet de ce qui se passait au premier siècle quand l'Église est née. Mais pour commencer à parler de ce qui se passait au premier siècle, il faut commencer bien avant. Il faut commencer à parler des Juifs, du peuple juif de l'Ancien Testament. Parce que quand le Messie est venu, l'histoire de la région juive durait déjà depuis 2000 ans. Et pendant ces 2000 ans, les Juifs avaient eu le temps de mesurer leur religion de comparer et de mesurer leur religion aux cultures, puisque nous parlons de culture, aux cultures environnantes. Et l'histoire de ces affrontements, parce qu'il s'agit bien d'affrontements entre la région juive et les cultures environnantes, l'histoire de ces affrontements n'est pas vraiment très positive. Je veux dire par là que, et je le souligne depuis le début, que l'influence des cultures des nations autour d'Israël a toujours été, ou le plus souvent en tout cas, néfaste. Dieu savait que ce serait le cas, et c'est pour ça qu'il a donné des lois comme celle-ci. Tu les voueras à l'interdit, c'est-à-dire que tu les élimineras physiquement. Les Hittites, les Amoriens, les Cananéens, les Phérisiens, les Héviens, les Jébusiens, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les horreurs qu'ils font pour leur Dieu et à pécher contre l'Éternel votre Dieu. Et quelles étaient ces horreurs? Eh bien, Deutéronome 18, Lévitique 18, libertinage sexuel, sacrifice humain, divination, présage, technique occulte, sorcellerie, sort, évocation des esprits et des morts, prédiction de l'avenir, débauche. À part le sacrifice humain, et encore, vous me permettrez de dire que tout ça ressemble étrangement à notre 21e siècle. Quelqu'un pourrait dire, et logiquement, il s'agit là d'influences religieuses, et il y a quand même dans les autres cultures qui nous entourent bien des choses intéressantes et qui valent la peine d'apprendre et d'assimiler. Ce qui est vrai, bien entendu. Nous pouvons apprendre des choses dans le domaine de l'architecture, de l'art, de l'érudition, de toutes sortes, de la littérature. Mais tant il est vrai que ces choses-là sont valables, tant il est également vrai que, et voici un principe que je voulais suggérer, je crois qu'il est impossible, à long terme, de séparer une culture de sa religion, de prendre une culture sans, quelque part, prendre sa religion, même si sa religion est constituée du fait de ne pas en avoir une, comme c'est le cas au XXIe siècle. Les historiens nous disent que des 30 et quelques civilisations qui ont existé, la nôtre est la première, à ne pas être basée sur un dieu ou des dieux, c'est-à-dire des dieux, des divinités en tout cas. Cette anti-religion de notre époque est devenue en quelque sorte une religion. On a élevé l'homme à la place de son Dieu, il est devenu son propre Dieu. C'est donc le culte de l'homme et de ses accomplissements. Et dans ces conditions, si l'on veut profiter des bonnes choses de notre culture, ce qui est possible, je suppose, sans être pris dans le tourbillon d'une pensée humaniste, il faut faire bien attention. C'est un peu le défi qui est placé devant nous dans notre vie chrétienne et dont nous allons parler ce week-end. Je vous donne un exemple du danger dans ce sens. La plupart des nations autour d'Israël avaient des rois, c'était des monarchies, n'est-ce pas ? Et certaines de ces monarchies étaient de très bonnes monarchies. Les rois étaient puissants, savaient bien guider leur peuple et gérer les besoins, enfin les affaires de leur peuple. Mais quand Israël a désiré un roi, afin d'être comme les autres nations, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, votre Dieu est votre roi. Il n'a pas approuvé ce désir d'être comme les autres nations, bien que a priori, une monarchie, c'est comme les choses. Mais Dieu avait établi en Israël une théocratie, et que son peuple cherche à avoir un monarque, un roi, ce n'était pas dans ses desseins. Et il leur a dit, si vous choisissez un roi, vous aurez des problèmes, et nous savons ce qui est arrivé. Aujourd'hui, pour appliquer un peu cette idée, la plupart d'entre nous, la plupart je suppose, pensent que la démocratie est une bonne chose. Mais de là à gérer l'Église comme une démocratie, attention, danger. Parce que la démocratie, c'est la majorité la volonté de la majorité. Alors que qu'est-ce que Dieu a donné comme système de direction pour l'Église? Il a dit, ce seront les hommes les plus mûrs, les plus expérimentés dans la foi, qui vont diriger l'Église. Donc il y a quand même là un danger, je laisse à d'autres, je ne sais pas si quelqu'un d'autre va aborder ce sujet. C'est un exemple que je donne. Je reviens à Israël, après ce petit écart. L'influence des nations était généralement négative pour Israël. Je donne quelques exemples dans ce sens. Lorsqu'Israël s'est trouvé devant la montagne de Sinaï, et il ne savait pas ce qui était devenu, qui avait disparu sur la montagne, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait vu les plaies d'Égypte, il avait vu la puissance de Dieu à l'œuvre, il avait vécu la traversée de la mer, la mer morte, la mer rouge, à sec, n'est-ce pas? Il avait vu la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il avait besoin d'adorer quelqu'un? Eh bien, il a fait un veau d'or. Un veau d'or, pratique venant directement de la culture qu'il venait de quitter. Quand il se trouvait découragé pendant son périple dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait vu les prodiges de Dieu, les miracles, la manne, des choses comme ça, les délivrances devant les nations alentour. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il voulait adorer quelqu'un? Eh bien, il adorait les dieux de ces nations-là, y compris les dieux des Moabites qui pratiquaient, n'est-ce pas, la prostitution sacrée. Pendant la période royale, Salomon, influencé par une ou quelques-unes de ses femmes étrangères, lui-même a construit un haut lieu pour Molech, l'abomination des Moabites, 1 Rois 11:7, à qui on sacrifiait des enfants vivants. C'est-à-dire qu'en Israël, on sacrifiait des enfants vivants à un dieu étranger, par le feu. Et pourquoi le peuple a-t-il été envoyé en exil? Voici la Moïse avant le fait. C'est parce qu'ils sont allés rendre un culte à d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissent pas et que Dieu ne leur avait pas donné en partage. Et c'est donc pendant l'exil que Israël a finalement compris qu'il fallait qu'il reste à l'écart, il fallait qu'il soit un peuple choisi, élu pour Dieu, séparé, à part pour Dieu. C'est pendant l'exil que Israël a compris que l'idolâtrie, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Il y a un seul Dieu et qu'il ne faut pas aller chercher les dieux des nations. Et quand les exilés sont revenus et quand ils ont trouvé que ceux qui étaient restés au pays s'étaient mariés avec les nations alentours, ils étaient scandalisés. Ils n'avaient pas été scandalisés avant de partir en exil. Mais après l'exil, ils avaient compris qu'il ne fallait pas faire ce genre de choses. La loi avait dit, tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, etc. Et pendant la période entre les deux testaments, qui a duré quand même 4 siècles, Israël a été ballotté d'un côté et d'un autre par les Grecs et par les Romains, enfin les Grecs et après les Grecs par les Ptolémées, les Séleucides, les descendants, et par Antiochus Épiphane, ceux qui ont profané le temple de Jérusalem, et ensuite par les Romains. Ils ont été ballottés du côté d'autres, mais ils ont maintenu en général leur religion et leur tradition. Ils ont réussi pendant cette période, surtout avec les Maccabées, donc 2e siècle avant Jésus-Christ, à revenir au temple et à l'importance de leur foi et de leur loi, et à dire nous sommes le peuple de Dieu, et maintenant nous allons le devenir, vraiment. Il peut nous arriver n'importe quoi, nous allons rester fidèles. Bon, tout ça c'était un peu l'introduction. 4 points dans cette introduction. La culture ambiante autour d'Israël était plutôt néfaste pour lui. Deuxièmement, une culture et sa religion sont largement indissociables, même si la religion consiste à ne pas en avoir une. Troisièmement, on ne peut faire des concessions à la culture des hommes sans s'exposer au danger de faire aussi des concessions à leur Dieu. Et quatrièmement, Israël, pour être tombé dans ce piège, s'est trouvé condamné par l'Éternel. Et puis on peut ajouter un cinquième, c'est que Israël a finalement compris que le peuple de Dieu doit être le peuple de Dieu malgré et le malencontre des cultures qui sont autour. Quand le Messie est arrivé en Palestine, l'Empire romain était bien en place, mais l'Empire romain était déjà sur son déclin. Le système politique était bon, il était fort, l'aigle romain flottait suprême sur tout l'Empire, mais le système socio-culturel était moins louable. Le prix qui avait été payé pour cette stabilité politique et pour la paix qui régnait en général sur l'Empire avait été très élevé, parce que le siècle avant la venue de Jésus avait été marqué par beaucoup de guerres civiles parmi les nations qui avaient été dominées par les Romains. Et il existait un système d'inégalité humaine sous forme d'une société exploitrice d'un côté et une société exploité de l'autre. Il s'agit bien sûr de l'esclavage. L'esclavage, ça n'était pas l'invention des Romains, ni des Grecs avant eux, ça venait de plus loin encore. Mais enfin, c'était quelque chose de bien établi dans le système romain et donc au 1er siècle. Selon les historiens, les esclaves constituaient, ça dépend de quel historien vous consultez, du tiers de la population jusqu'à la moitié de la population étaient des esclaves. Les vertus qui avaient bâti l'Empire étaient les vertus du patriotisme, de la discipline, du respect de l'autorité et aussi du respect de la vie humaine. Mais ces choses étaient devenues ou étaient en train de s'affaiblir au 1er siècle. L'aristocratie était devenue avare d'argent et la populace était devenue avare de divertissement et de spectacle et même de brutalité. Qui a vu le film Gladiateur saura bien de quoi je parle. Le plaisir naturel, pour les Romains, le plaisir naturel de la vie cédait la place à un désir de quelque chose de plus, quelque chose d'excitant de plus, un divertissement de plus. Et le résultat était une sorte de dégénération des mœurs et la croissance d'une véritable vie malsaine, un vice malsain. Immoralité, éhonté, égoïsme brutal, exhibitionnisme vulgaire. Et voilà encore une fois des choses qui décrivent, n'est-ce pas, notre société du 21e siècle. Nous parlons pour l'Empire romain tout entier d'une population d'environ 55 millions de personnes. 55 millions de personnes à peu près sur tout l'Empire romain, dont 1 million déjà au 1er siècle à Rome. Ce chiffre m'a vraiment surpris quand je l'ai lu. 1 million de personnes déjà à Rome. Sur tout l'Empire, il y avait jusqu'à 7 millions de Juifs, dont 3 millions en Palestine. Ce qui voulait dire que 4 ou 5 millions étaient en dehors de Palestine. Ce sera intéressant pour la suite. Donc ceux qui vivaient en dehors de la Palestine vivaient partout, vraiment partout, dans tout l'Empire. Selon le géographe Strabon, 1er siècle, il n'était pas facile de trouver un endroit dans le monde entier, comme de l'époque évidemment, les Juifs ne s'étaient pas établis. Ils étaient surtout dans l'Est et dans le Sud, mais ils se trouvaient vraiment partout. Ils étaient fermiers, fonctionnaires, artisans, commerçants, même acteurs. Ils étaient riches et ils étaient pauvres. Ils étaient tous les échelons entre les deux. Et ils étaient vraiment ancrés dans toute la société. Mais le plus important, c'est que ces Juifs éparpillés restaient un peuple à part. Restait un peuple défini entre eux, même après des générations en dehors de la Palestine, loin de Jérusalem. Les Juifs de la diaspora, de la dispersion, se considéraient toujours comme membres du seul peuple de Dieu, et en tant que tel, il fallait qu'ils maintiennent leur distance avec les païens. Et ce qui réunissait tout ce peuple éparpillé était deux choses principalement, la loi et leur temple. La loi et leur temple, leur sanctuaire à Jérusalem. Et au moment des fêtes, de grandes foules venaient de tout l'Empire pour célébrer les fêtes à Jérusalem. Et lorsqu'ils venaient à Jérusalem à l'occasion de la Pâque ou de la Pentecôte, ils faisaient toujours les mêmes gestes, dans le même ordre, pour les mêmes raisons, comme cela avait été fait depuis des siècles. Et c'était une chose qui aidait à identifier le peuple, à établir l'identité du peuple. Et le peuple n'était jamais plus juif que quand il était à Jérusalem en train de célébrer Dieu au moment des fêtes. Mais quand il n'était plus à Jérusalem, ou pas à Jérusalem, entre les fêtes, dans tout l'Empire, il y avait, pour les peuples juifs, il y avait des synagogues. Dans toutes les villes où ils se trouvaient, il y avait des synagogues. Mais dans ces synagogues, qui étaient donc en dehors de Jérusalem et en dehors de Palestine, c'était une sorte de manière grecque qui était appliquée. La culture grecque était puissante, et les gens qui habitaient en dehors de Palestine suivaient la culture grecque. Ils avaient la même manière de faire des discours, la même manière d'argumenter, d'organiser leur logique. La manière grecque était vraiment très puissante, même dans les synagogues. Exemple, quand l'apôtre Paul veut parler dans la synagogue à Antioche de Pisidie, Actes chapitre 13, il lève la main à la manière grecque pour demander la parole, et il se lève pour prononcer son discours à la manière grecque au lieu de rester assis à la manière juive. L'influence des Grecs était donc très forte, d'autant plus que le grec était la langue officielle, n'est-ce pas, de tout l'Empire, ou de la majorité en tout cas. L'époque, premier siècle, culture romaine, était une époque vraiment très religieuse. Tout le système social romain était lié à des rituels, à tel ou tel dieu. Toutes les manifestations publiques et même privées étaient consacrées à un dieu ou à des dieux. Avant de commencer les cérémonies, enfin de l'activité, on disait quelque chose, on faisait une célébration en l'honneur de tel ou tel dieu. Il y avait des spectacles publics, des banquets, des cérémonies officielles, militaires, civiles. Tous étaient précédés d'une sorte d'acte d'obéissance à tel ou tel dieu romain. La populace romaine avait réagi contre les extravagances et les formalités de la religion grecque, des dieux grecs qui, du haut des cieux, faisaient des choses terribles et horribles aussi, et ils s'étaient donné des dieux plus proches d'eux. Et tout cela a conduit finalement à une personnalisation de la religion, en la forme, en partie en tout cas, de magie et de superstition, de culte mystique et mystère, comme ceux de Cybèle, d'Issis et de Matra, qui pouvaient prendre des formes extatiques et même débauchées. Les Romains, les autorités romaines, ont eu beaucoup de problèmes avec des gens qui célébraient le culte de ces déesses-là et qui participaient à des orgies énormes, même plus grandes que celles qui étaient organisées par les Romains pour leur dieu. Et il y a autre chose intéressante et même étonnante, c'est que cette culture dont je parle ne se trouvait pas seulement en dehors de la Palestine. Nous avons l'impression, en lisant la Bible, que la religion païenne, la culture païenne, la société païenne s'arrêtait aux portes de la Palestine. Et que là, il n'y avait que des juifs, à part quelques soldats qui étaient là pour garder la paix, la tranquillité de la chose. Mais non, cette culture existait aussi en Palestine. Et les juifs qui habitaient la Palestine connaissaient bien cette culture, cette religion romaine. En effet, la région où Jésus a passé le dernier mois de son ministère était appelée, n'est-ce pas, la Galilée des païens, chapitre 4 de Matthieu. Donc tout ce que je viens de vous parler, ce dont je viens de vous parler, se pratiquait dans cette région, et Jésus le connaissait, et les juifs, tous les juifs aussi. C'est donc dans une culture polythéiste, largement immorale, brutale, multi-ethnique, géographiquement très étendue, mais dans laquelle les Juifs avaient gardé leur identité essentielle, que le Christ est mort et que l'Évangile a été annoncé et que les chrétiens ont été appelés à servir le Dieu unique. Le Messie arrive, donc, il donne son enseignement. Il meurt sur la croix, comme cela a été prophétisé. Il ressuscite, comme cela a été prophétisé. Il remonte vers son Père, et comme il promet, il envoie son Esprit, et il établit son Église. Son Église, qui est au début, constituée uniquement de Juifs. Les deux apôtres sont des Juifs, et tous les membres de l'Église, au début, sont des Juifs. Mais des Juifs, quand on regarde la race juive, il y a un éventail qu'il faut comprendre, c'est-à-dire il y a des juifs hébraïques et il y a des juifs hellénistes. La différence est celle-ci. Dans l'Ancien Testament, un hébreu et un israélite, c'est la même chose, dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, les hébreux, c'est un israélite, les hébreux, mais ce sont ceux qui sont restés dans le pays et qui ont gardé la culture et la langue hébraïque. Les juifs hellénistes sont ceux qui sont partis au loin à cause de l'exil ou autre chose, et qui sont maintenant de race et de culture, pas de race, mais de culture et de langue grecque. Donc c'est les hellénistes. Mais tous, ce sont des juifs. Mais ils ont des manières de parler, des manières de penser, des manières d'agir, tout, tout différent, mais ils ont quand même cette base en commun, qui est leur foi, leur loi et leur sanctuaire. Et c'est dans ce groupement de juifs que les premiers chrétiens sont pris le jour de la Pentecôte, à chapitre 2. Toute la liste des nations qui sont présentes, partent, Mèdes et la Mythe, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, territoire de Libye, Rome, juifs, prosélytes, prétoires, arabes, etc. Ils venaient de tous ces pays, tout le monde habité de l'époque, et ils sortaient de toutes les cultures possibles. Mais dans les 3000 qui ont été convertis le jour de la Pentecôte, bientôt 5000 après cela, il y avait une majorité de juifs palestiniens, c'est-à-dire des juifs hébraïques, hébreux, qui venaient donc du pays. La grande majorité venait de ceux qui étaient là, sur place, et pas de ceux qui venaient du dehors. Ces juifs qui habitaient en dehors de Jérusalem, et dont quelques-uns avaient été convertis, en Actes chapitre 2, avaient des idées un peu plus larges que ceux qui habitaient en Palestine, et qui étaient plus liés, eux, aux pratiques de la culture hébraïque. Donc cette majorité juive, palestinienne, hébreu, hébraïque, explique peut-être pourquoi le premier problème dans l'Église était celui des veuves hellénistes dans la distribution. Déjà des étincelles entre les deux groupements dans l'Église, les juifs hébreux et les juifs hellénistes avaient déjà des problèmes tout de suite au début. Elle explique aussi sans doute pourquoi le premier martyr était Étienne, un juif helléniste. Et c'est sans doute pourquoi les juifs ont été très persécutés après la mort de... Les chrétiens, je veux dire, ont été très persécutés après la mort d'Étienne, sans doute par les juifs de Jérusalem non convertis, qui en voulaient aux hellénistes qui étaient venus devenir chrétiens, et c'est donc sans doute les hellénistes qui étaient chassés en premier. Mais il y a un autre aspect de la chose qui ressort tout de suite, c'est le conflit entre le nationalisme des juifs non convertis, cette idée que nous sommes le peuple de Dieu, nous devons rester le peuple de Dieu, et nous, uniquement, et l'universalisme de la religion chrétienne. Les juifs non-croyants ne pensaient pas que la venue du Messie devait changer quelque chose à leur religion. Ils disaient, quand le Messie viendra, eh bien, il chassera les Romains et tous les autres occupants, et nous deviendrons encore une fois la première entre toutes les nations, comme au jour de David, comme au jour de Salomon. Ils étaient fermement, voire fanatiquement, nationalistes. Mais la religion chrétienne ne peut pas se limiter à un seul peuple, parce que Jésus a dit, n'est-ce pas, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc il y avait déjà un problème pour les juifs qui ont entendu l'enseignement de Jésus et des apôtres surtout, et il y avait donc des accrochages inévitables. Les premiers lieux, lorsque Pierre et Jean et les autres apôtres ont été rappelés à l'ordre par le Sanhédrin, au sujet de la prédication à Jérusalem, le deuxième, quand Étienne a été lapidé par les juifs pour avoir critiqué leur désobéissance à Dieu, et ensuite, il y a surtout les conflits entre Paul et les juifs. Paul, qui était un puissant défenseur de la loi et de la foi juive, et qui d'un coup est devenu un chrétien. Alors là, les juifs n'ont pas apprécié. Les juifs non croyants n'ont pas apprécié ça. Ils ont essayé de le tuer plusieurs fois, n'est-ce pas? Ils ont réussi quand même à le faire battre de verges trois fois, fouetter cinq fois de 39 coups, lapider, chasser de ville en ville, etc. Pourquoi? Parce que cet homme, comme Étienne, comme vous avez dit au sujet d'Étienne, nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. Pour eux, il était question de garder les coutumes. Pour l'apôtre Paul, il était question de changer tout cela et d'ouvrir les portes de la foi à toutes les nations. Ceci était impossible pour les juifs nationalistes. Plusieurs lettres du Nouveau Testament font état de persécution des chrétiens par les juifs, et ceci parce qu'ils ont abandonné non seulement une loi, mais une manière de vivre, une manière de célébrer leur culte, qui était devenue donc une partie de la culture nationaliste juive. Mais ce nationalisme juif, devenu un phénomène culturel autant que religieux, s'est manifesté également à l'intérieur de l'Église, entre chrétiens, entre judéo-chrétiens, donc juifs devenus chrétiens, et entre eux les pagano-chrétiens, les païens devenus chrétiens. Lorsque Pierre-Baptiste Cornille, par exemple, bien, les juifs chrétiens de Jérusalem sont scandalisés. Mais tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Les incirconcis en question sont des frères et sœurs en Christ maintenant. Mais ils étaient scandalisés que Pierre accepte d'entrer chez eux, qui étaient contraires à la loi, et de manger avec eux. Que Cornille devienne chrétien et soit maintenant un frère, ils ne pensaient même pas. Il y avait quelque chose d'autre. Pour eux, ils n'avaient pas compris qu'il était possible de devenir chrétien sans devenir juif, au moins prosélyte, avant. Et cette idée est concrétisée lorsque certains frères juifs vont à Antioche, où il y a plusieurs païens, chrétiens d'origine païenne, et ils annoncent dans cette église d'Antioche que si vous ne vous faites pas circoncis, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvé. C'est-à-dire, tout le monde est devenu chrétien, d'accord, c'est bon, mais écoutez, il faut devenir juif avant. Il faut que le christianisme passe par le judaïsme. Ces premiers chrétiens, ne comprenez pas que le christianisme devait exister indépendamment du judaïsme, qu'il était sorti du judaïsme, oui, mais il n'était pas nécessaire de rentrer dans le judaïsme pour devenir chrétien. Pour eux, le christianisme était une sorte d'appendice sur le judaïsme, une sorte d'extension naturelle, qui ne pouvait pas être indépendant. Il fallait qu'ils sortent du judaïsme, donc, pour devenir chrétien, on passe par le judaïsme. Eh bien, vous connaissez toutes ces choses, ces situations ont donné lieu à des réunions entre les apôtres, les anciens des églises, etc., où il a été décidé, premièrement, que les judéo-chrétiens n'allaient pas imposer sur les pagano-chrétiens, c'est une loi que les juifs eux-mêmes n'avaient pas pu suivre. Et deuxièmement, que l'avenir dans l'église des païens était un accomplissement des prophéties. Je passe sur la circoncision Timothée, non-circoncision Tite, quelqu'un d'autre va parler de ça, je crois. Bref, il a fallu à peu près une génération pour que les chrétiens juifs eux-mêmes réussissent à dégager leur foi chrétienne de ses racines juives. Et on peut peut-être indiquer deux choses qui ont aidé à cette séparation. Une première chose, ce serait la destruction du temple. Ce n'est pas un hasard, je crois, que une génération après le début de l'Église, tu as fait détruire ce sanctuaire. Comment les juifs pouvaient-ils être désormais axés sur leur loi et leur temple s'ils n'existaient plus? Et la deuxième chose, c'était surtout l'enseignement de l'apôtre Paul, l'apôtre des païens ou envers les païens, qui dans sa prédication, dans ses lettres, a sans doute été une très grande influence. Il a dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec. Et cette idée, il a fallu du temps pour que ça rentre dans les esprits. Nous ne sommes plus des juifs et des grecs, nous sommes un seul peuple. Il n'est pas nécessaire de devenir juif avant de devenir chrétien. Un peuple n'a plus la priorité sur une autre. Si vous êtes chrétien, vous êtes le peuple de Dieu, quelle que soit la nation dont vous sortez. Et puis, il faut quand même souligner le problème que cette église a eu avec les Romains. Parce que les Romains n'ont pas fait beaucoup d'attention, n'ont pas prêté beaucoup d'attention au début du judaïsme, du christianisme. Pourquoi? Parce que tout cela avait eu lieu à l'intérieur d'une autre religion, celle des Juifs, et les Romains ne remarquaient pas grand-chose. Et pour les Romains, toute religion était bonne du moment où les personnes concernées ne se prononçaient pas contre le Dieu de Rome. C'est-à-dire, quand on bâtit un empire, on va dominer des peuples, n'est-ce pas, et on va les ramener dans les groupes, et ces peuples auront des religions. Et les Romains se sont dit, nous n'allons pas leur demander de rejeter leur Dieu. Nous allons simplement leur demander, continuez si vous voulez, d'adorer vos dieux, mais acceptez les nôtres aussi. Et on vous accepte, vous nous acceptez, et c'est bon. Mais les chrétiens ne pouvaient pas faire cela. Les chrétien ne pouvait pas faire cela. Pour les Romains, ce qui était une question de convenance culturelle, vous acceptez mes dieux, j'accepte les vôtres, était autre chose pour le chrétien. Il y a beaucoup de Romains qui n'aimaient pas les dieux romains, enfin, je veux dire, des peuples dominés par les Romains, qui n'aimaient pas les dieux romains, mais ils acceptaient d'aller sacrifier à tel ou tel dieu romain, juste pour que les Romains les laissent tranquilles, pour qu'ils puissent ensuite adorer ses propres dieux. Mais les chrétiens étaient incapables de faire cela. Un dieu unique, n'est-ce pas? Le seul dieu unique, sauveur. Alors un chrétien ne peut pas dire, d'accord, je vais sacrifier à ce dieu-là, juste pour que vous me laissiez tranquille, pour que je serve mon Dieu. Parce que si mon Dieu est le seul qui existe, je ne vais pas pouvoir aller adorer le vôtre. Et ça crée des problèmes. C'est à partir de là que les Romains ne pouvaient pas ignorer, ou plus ignorer, les chrétiens. Et une fois le christianisme a été distingué du judaïsme, après la première génération à peu près, il était considéré par les Romains comme une religion hors la loi. Ajoutez à cela le fait que les chrétiens souvent se réunissaient en secret, ou en quelque sorte en secret, c'est-à-dire que souvent ils ne permettaient pas aux gens non chrétiens d'assister à la réunion, au moins du moins à la scène. Et comme les Romains savaient cela, et qu'ils savaient aussi que le Christ avait dit « vous mangerez mon corps et vous boirez mon sang », et que le Christ avait dit « vous aimerez les uns les autres », alors l'esprit tordu des Romains commence à se dire, voilà, ben c'est du cannibalisme, c'est des orgies, et c'est des sociétés secrètes, il faut éliminer tout cela. Nero est le premier à persécuter vraiment les chrétiens, mais sa persécution était due à sa personnalité tordue surtout, et c'était plutôt local. Mais à partir de Domitien, qui était le premier à se faire appeler Dieu, et exiger à ceux qui étaient autour de lui de l'appeler Dieu, de considérer comme Dieu, de l'adorer comme Dieu, à partir de lui, la persécution s'est généralisée. Et à ce point, l'Église est devenue une véritable menace pour Rome, un danger, un élément de discorde. Car elle refusait d'accepter ce culte de l'empereur. On pourrait mettre des chrétiens devant la foule et dire, vous allez dire César est Seigneur. Les chrétiens refusaient, généralement. Il y en a qui le fait, mais généralement, ils refusaient de dire César est Seigneur. Il demande aussi que les chrétiens disent « mort aux athées ». Les athées, c'était les chrétiens, à l'époque, parce qu'ils ne croyaient pas aux dieux romains. Dans au moins un cas, un chrétien qui était appelé à dire cela, il a indiqué la foule avec son doigt. Il a dit « mort aux athées ». Il n'a pas vécu longtemps. L'Église a donc été confrontée à la question de savoir si elle allait accomplir un rite purement culturel pour la culture autour, ce qui consistait à promettre fidélité à l'empereur, ou si elle allait insister sur la nature stricte de sa foi, et si elle allait dire il n'y a aucun Dieu à part le véritable Dieu, même si ça lui coûtait sa vie. Bien, malgré la persécution générale qui a duré plusieurs siècles, deuxième, troisième siècle après Jésus-Christ, la situation, au moins à la fin du premier siècle pour les chrétiens, était à peu près la même que les juifs au début du premier siècle, c'est-à-dire à la fin du premier siècle, après la première génération un peu plus de l'Église, les chrétiens se trouvaient partout dans l'Empire. Il y avait plusieurs millions de chrétiens à l'époque, ils étaient dans toute la société, ils faisaient toutes sortes de choses, et ils se trouvaient partout, et ils avaient une véritable influence dans la société, une influence qui a mal tourné pour eux pour pendant les 2e et 3e siècles, mais vous connaissez aussi comment cela a fini. Et puis, il me reste à parler brièvement des conflits entre les chrétiens et ce que la Bible appelle le monde des intérêts et des valeurs qui s'opposent à l'enseignement de Christ. Jésus a très clairement, pendant son ministère, fait la différence entre le monde et son peuple à lui, Jésus. Il a dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Et les apôtres ont pris la relève, les apôtres formés par Jésus-Christ, ou inspirés par lui. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Écoutez bien ce qu'il dit des païens. Qu'ils marchent selon la vanité de leur intelligence, ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est une liste très dure. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Cette pensée obscurcie, cette vanité d'intelligence, cet éloignement de la vie de Dieu, cette ignorance, cet endurcissement de leur cœur, ce sens moral perdu, ce dérèglement, cette impureté, tout cela encore une fois décrit notre société du XXIe siècle. Et tout cela à l'époque conduisait les gens loin de Dieu. Et à notre époque, conduit les gens loin de Dieu. Encore une raison pour sortir de ces cultures, pour garder nos distances et pour bien identifier le peuple de Dieu. Peut-être que l'avertissement le plus fort du Nouveau Testament est donné par l'apôtre Jean dans sa première lettre, chapitre 2, verset 15, un verset que nous connaissons bien. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, et j'ajouterai, si j'ose, sa culture aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je termine par ces deux remarques, mettons, générales, sur lesquelles je pense que les autres vont bâtir. La culture et la foi se trouvent souvent en conflit. L'histoire nous le prouve, notre vie nous le prouve. Quand cela arrive, la Bible nous dit de préférer toujours la volonté de Dieu, quoi que nous dise la culture en dehors de l'Église, et même quoi que nous dise la culture à l'intérieur de l'Église. Et deuxièmement, le rôle de l'Église n'est pas de s'adapter, d'adapter sa foi à la culture autour, la culture du monde, mais le rôle de l'Église est plutôt d'appeler le monde à s'adapter à la volonté de Dieu. Voilà ce que j'avais à vous dire, je vous remercie de votre attention, et on va faire une petite pause maintenant, je crois. Merci.
Donc nous allons maintenant un petit moment de pause et on reprendra dans exactement 20 minutes.